Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Bonjour chers auditeurs. Au fil des notes, vous accueille aujourd'hui sur Couleur FM 97.1 pour vous parler du compositeur Richard Wagner. Il est l'un des plus grands compositeurs allemands du 19e siècle, ainsi qu'un important théoricien de la musique. On le connaît surtout pour ses opéras, dont les principaux sont en réalité des drames lyriques. L'influence de Wagner sur la musique occidentale, et en particulier dans l'univers de l'opéra qu'il a révolutionné, est immense. Wilhelm Richard Wagner est né le 22 mai 1813 à Leipzig, dans la Saxe, est de l'Allemagne, et il perd très vite son père et ses repères en raison de l'empoisonnement des eaux de l'Elster par les corps des hommes et des chevaux tués pendant la bataille des nations. C'est terrible. Hein. Ils ont tous des vies, hein. Depuis qu'on fait l'émission, ils ont tous des vies quand même assez tumultueuses et glauques. Hein. Et Ludwig Geyer, qui était un peintre et locataire des Wagner, s'occupe de la famille à la suite de ce deuil. Il leur témoignera toujours une grande affection jusqu'en 1821, à la date de son décès. Il participe à l'époque romantique, Richard Wagner, l'époque romantique de la musique classique, bien sûr.
Oui, et le jeune Wagner se prend de passion pour le théâtre grâce à l'affection de ce père providentiel. Jeune, il ne manifeste pas de dons particuliers pour la musique, mais s'intéresse plutôt à la tragédie grecque et à la poésie. Il ne découvre la musique de Wolfgang Mozart et Ludwig van Beethoven que vers sa 15e année et se lance dans une carrière de compositeur pratiquement sans bagage technique. Mais Wagner est aussi un agitateur, un provocateur.
Encore un.
En 1830, les événements en France, la Révolution de Juillet et le soulèvement en Pologne provoquent quelques remous politiques à Leipzig. Wagner y participe activement et se fait déjà remarquer comme agitateur dans les milieux anarchiques.
Aïe, ça me rappelle
cependant,
un souvenir.
Oui, il prend des leçons de contrepoint auprès de Weiling et commence à composer deux sonates pour piano, une symphonie, des ouvertures de concerts. Il est âgé de 27 ans. En 1831, Wagner s'inscrit à l'université de Leipzig où il suit des cours de philosophie. En 1833, il rejoint son frère, chef des chœurs à Würzburg. Il y acquiert une certaine expérience de la scène.
Et avec le temps, Wagner deviendra le plus grand chef d'orchestre de son époque. Il pose les bases de la direction d'orchestre moderne et il obtient la direction de la musique de la troupe du théâtre de Magdebourg et il fait la connaissance de Wilhelm, dite Minna Planer, jeune actrice. C'est à cette époque qu'il compose son premier opéra, Les Fées. Il ne sera joué qu'en 1888. Nous allons écouter maintenant sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes, la chevauchée des Walkyries, extrait de la Walkyrie par l'orchestre de Cleveland dirigé par George Zell.
Thank you.
venez d'écouter La Chevauchée des Walkyries de Wagner, qui a été utilisée dans grand nombre de films, d'événements, et c'est vraiment un morceau gigantesque. Quel film tu nous disais tout à l'heure?
Apocalypse Now.
Apocalypse Now, on l'a cherché ce titre, hein, Marie. Mais on l'a trouvé, effectivement. Donc, non, c'est, je te taquine. Hein. Il faut bien un petit peu en même temps. Hein. Donc, Wagner se marie avec Mina le 24 octobre 1836. Et le couple s'installe jusqu'en 1839 à Riga, malgré une fugue amoureuse de Mina avec un banquier en juin 1837. C'est assez sulfureux, quand même, leurs histoires d'amour à tous, là, à chaque fois. Hein.
Elle avait bien raison, parce que...
Elle avait bien raison,
oui.
Nous dit Marie.
Enfin, bon,
ouh là là.
Alors, il occupe les fonctions de directeur musical de théâtre. Chassé de son poste par les critiques d'un confrère, Wagner décide de se rendre ensuite à Paris pour y tenter sa chance. Après des conditions de voyage très périlleuses dans la Baltique, il y parvient, mais n'aura pas le succès espéré. Le public parisien n'a d'yeux et d'oreilles que pour les opéras de Meyerbeer. Wagner est obligé de faire 1000 petits travaux pour subsister. Il compose des chansons, réalise des arrangements musicaux de toutes sortes et écrit des articles pour la Gazette musicale.
Effectivement, il est parti un peu dans tous les sens, là.
Oui, oui, oui. Heureusement qu'il savait faire beaucoup de choses.
Tout à fait.
Cependant, il termine son nouvel opéra, Rienzi, et compose en 7 semaines Le Vaisseau Fantôme, dont il vendra l'ébauche pour 500 francs d'époque à un éditeur parisien. Malgré des dettes et des querelles conjugales incessantes, le couple semble inséparable.
Je t'aime moi non plus.
Déjà, oui. Et il rentre en Allemagne pour présenter Rienzi. La première, le 20 octobre 1842 à Dresde, est un triomphe.
Et en février 1843, il est nommé maître de chapelle à vie de la cour de Saxe, qui est énorme quand même. Hein. Il s'y consacre entièrement et avec une très grande efficacité qu'on lui reconnaît. Il y remporte de grands succès comme chef d'orchestre dans des opéras de Mozart, Vincenzo, Bellini, Karl Maria, von Weber et la 9e symphonie de Beethoven, œuvre totalement énigmatique à l'époque. Alors Wagner se plonge dans la composition de Lohengrin, mais en 1849. Il participe activement, semble-t-il, aux journées révolutionnaires de Dresde. Pourchassé, le couple s'exile en Suisse et arrive à Zurich le 31 mai 1849, puis à nouveau à Paris.
Et Wagner donne la première de Lohengrin à Wehrmacht, qui augmente son prestige.
Alors nous allons écouter un extrait de L'Or du Rhin à l'Opéra Bastille sous la direction musicale de Philippe Jordan sur Couleur FM dans l'émission Au fil des notes.
Habt Acht vor dem nächtlichen Heer, entstand des Nibelungen und aus Wummer Hilfe.
Donc nous venons d'écouter L'Or du Rhin de Richard Wagner. Continuons maintenant, si vous le voulez bien, Marie.
Oui, en 1851, une relation amoureuse avec Mathilde Vézédonck, épouse d'un banquier mécène suisse, lui inspire le poème de Tristan et Isolde.
Décidément, ils ont le feu aux
oui.
poudres.
Et Tristan et Isolde est considéré comme le point de départ des principales avancées que connaîtra la musique au XXe siècle. Et l'anneau du Nibelung, festival scénique en un prologue et trois journées dont la conception bouscule délibérément les habitudes de l'époque pour aller, selon ses propres termes, vers un art total, c'est-à-dire un spectacle complet, mélodie continue et emploi du leitmotiv.
Alors, de 1855 à 1856, c'est pour Wagner une période de création intense. Hein. Il y a la Walküre des Siegfried et une période aussi d'amitié intense aussi avec Franz Liszt. En 1859, Wagner décide de retenter sa chance à Paris. L'étoile de Meyerbeer pâlit et il estime le moment favorable. Il veut y donner Tannhäuser. Les répétitions sont intenses, coûteuses, et la première, le 13 mars 1861, est un désastre. La situation financière de Wagner ne s'arrange guère, malgré un nouveau succès, les maîtres chanteurs de Nuremberg et l'aide de Liszt.
Alors cet opéra est de loin son œuvre la plus joyeuse. Sa seconde femme, Cosima, écrira plus tard, puissent les générations futures, en cherchant du rafraîchissement dans cette œuvre unique, avoir une petite pensée pour les larmes qui ont mené à ses sourires. Ouf. En 1862, Wagner se sépara finalement de Mina, mais il continuera de la soutenir financièrement jusqu'à sa mort en 1866. Lui, ou du moins ses créditeurs, le feront.
Bon. Et en 1864, alors que sa situation financière est devenue absolument insoutenable, il reçoit un appui capital qui lui permettra de réaliser ses rêves. Alors, sa carrière, elle prend un virage spectaculaire lorsque le roi Louis II accède au trône de Bavière à l'âge de 18 ans. Le jeune roi, qui admire les opéras de Wagner depuis son enfance, décide en effet de faire venir le compositeur à Munich. Le rencontre le 4 mai 1864 au palais de la Résidence met fin aux soucis financiers de Wagner qui ne parvenait toujours pas à vivre de ses droits d'auteur et le roi devenant son mécène. C'était une bonne chose pour lui, bien évidemment.
Ah, c'est sûr.
Le journal du roi, ainsi que les lettres, montrent son homosexualité et son adoration passionnée de Wagner, dont il est probablement amoureux, sans que l'on puisse conclure s'il y a eu une liaison entre les deux hommes. Étrange.
Il règle ses dettes considérables, son amour du luxe et des femmes fait qu'il accumule continuellement les dettes, et s'arrange pour que son nouvel opéra Tristan et Isolde puisse être monté. Malgré les énormes difficultés rencontrées lors des répétitions, la première a lieu le 10 juin 1865 et rencontre un succès retentissant. Pendant ce temps, il est installé dans une confortable villa sur les rives du lac de Starnberg.
Il en profitait un peu, il était au soleil là. Hein. Mais c'est ainsi qu'est créé le théâtre du Festspielhaus à Bayreuth, dont l'inauguration a lieu en 1876. Wagner peut y créer et jouer ses œuvres comme il le conçoit, et l'attachement de Louis II à Wagner ne se démentira jamais. Forcément, les choses s'expliquent. Alors écoutons, si vous le voulez bien, le Chœur des Pèlerins, extrait de Tannhäuser par les Pilgrims Chorus sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes. C'était donc le Chœur des pèlerins de Wagner, Richard.
En août 1876 est représenté le cycle de l'Anneau du Nibelung en présence de Liszt, de Camille Saint-Saëns, d'Anton Bruckner, de Gustav Mahler, de Piotr Tchaïkovski ou encore de l'empereur Guillaume Ier.
Les plus grands, quoi.
Les plus grands. D'un point de vue artistique, ce festival est un succès remarquable. Tchaïkovski, qui y a assisté en tant que correspondant russe, écrit « Ce qui s'est passé à Bayreuth restera dans la mémoire de nos petits-enfants et de leur descendance. » Financièrement, c'est toutefois un désastre absolu. Wagner doit renoncer à organiser un second festival l'année suivante et tente de réduire le déficit en donnant une série de concerts à Londres.
Wagner connaît une nouvelle passion amoureuse encore avec Cosima, la fille de Liszt et de la comtesse Marie d'Agoult et épouse malheureuse du célèbre chef d'orchestre Hans Guido von Bülow. Cosima est de 24 ans la cadette de Wagner. En avril 1865, elle accouche d'une fille naturelle qui est prénommée Isolde. La nouvelle s'ébruite et rapidement, c'est le scandale pour lui dans tout Munich. Le couple adultère s'installe sur les bords du lac de Lucerne, ce qui provoque la rupture entre Wagner et Liszt. Cosima rompt avec von Bülow en 1868 et le mariage avec Wagner aura lieu le 25 août 1868. Ce mariage dura jusqu'à la mort du compositeur. Ils eurent une autre fille, Eva, et un fils, prénommé Siegfried.
Les années suivantes sont des années de bonheur et voient la création de Siegfried et du Crépuscule des dieux. En 1877, Wagner s'attela à son dernier opéra, Parsifal, qu'il termina en 1882. La composition lui en prit 4 ans, durant lesquels il écrivit également une série d'essais réactionnaires sur la religion et sur l'art. Il mit la dernière main à Parsifal en janvier 1882 et le fit représenter lors du second festival de Bayreuth. Pendant l'acte 3 de la 16e et dernière représentation le 29 août, le chef Hermann Lévy fut victime d'une indisposition. Wagner entra discrètement dans la fosse d'orchestre, prit la baguette et dirigea l'œuvre jusqu'à son terme.
Et oui, c'est une belle chose aussi. L'état de santé, par contre, de Wagner se dégrade. Elle se dégrade rapidement. Il fait plusieurs crises cardiaques. Mais voulant composer quelques symphonies en un mouvement, il se rend à Venise en septembre 1882. Et comme beaucoup de compositeurs allemands, il tombe amoureux de l'Italie. De l'Italie, hein, pas d'une Italienne. Nous allons donc écouter un extrait de l'ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg par l'orchestre de Cleveland dirigé par George Zeltz.
Thank you.
Chanteur de Nuremberg par Richard Wagner.
On peut dire de Wagner que sa vie de bohème et fantasque lui a fait endosser de multiples habits, révolutionnaire sans le sou, fugitif traqué par la police, homme à femme, confident intime du roi Louis II de Bavière, critique et analyste musical, intellectuel travaillé par l'antisémitisme de son époque, qui sera récupéré après sa mort et dans un contexte différent par les nazis.
Ça rappelle aussi une émission qu'on a faite il n'y a pas longtemps sur Van Karajan.
Son comportement et ses œuvres laissent peu de gens indifférents. Jamais un artiste n'a autant été contesté dans l'histoire de la musique, détesté ou idolâtré.
Et pour cause. Aussi doué pour nouer des amitiés dans les cercles artistiques et intellectuels que pour les transformer en inimités, sachant créer le scandale comme l'enthousiasme, il suscite des avis partagés et souvent enflammés de la part de ses contemporains. Et ses conceptions artistiques avant-gardistes ont eu vraiment une influence déterminante dans l'évolution de la musique dès le milieu de sa vie. Il puise son inspiration chez Giovanni Pierluigi da Palestrina et de chez Johann Sebastian Bach aussi, chez Bellini, chez Mozart, chez Beethoven. Il a créé la ligne mélodique continue dans un opéra et a fortement utilisé le leitmotiv inventé par Meyerbeer.
Wagner s'est affirmé comme un précurseur de l'atonalité, système d'écriture musicale qui a bousculé la composition traditionnelle et engendra le large courant de la musique avant-gardiste qu'on appelle aujourd'hui musique contemporaine et a inspiré de nombreux compositeurs, parmi lesquels notamment Arnold Schoenberg. À l'égal de Giuseppe Verdi, né la même année, mais au style radicalement différent,
c'est clair.
Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs d'opéra du XIXe siècle.
Moi, je préfère quand même Verdi, mais bon. Mais Wagner est terrassé malheureusement par une dernière crise cardiaque et il meurt dans la ville des Doges le 13 février 1883. Cependant, le festival de Bayreuth a survécu à son créateur, fort heureusement, et il célèbre encore le génie de ce créateur. Marie, votre petite phrase du jour, hein ? Allez, Angelette,
oui.
Allô ?
Allez, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Et elle est de Richard Wagner.
Bien évidemment. Alors, nous allons écouter pour finir cette émission l'ouverture de Tristan et Isolde par le Philharmonia Orchestra dirigé par Wilhelm Furtwängler. Et comme d'habitude, ce sera une grande pause.
Thank you.
Et sur ce magnifique air, profitons-en pour parler des petits potins du classique en Rhône-Alpes que vous retrouverez sur le site de Couleur FM dans la rubrique Au fil des notes. Au revoir Marie, à bientôt.
Au revoir, Valérie,
sur Couleur FM.
À bientôt, à très bientôt.
On vous réserve une petite surprise là pour la prochaine émission, je l'espère. Mmh. Alors, à l'Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi à Lyon 3e, le jeudi 5 février à 20h, Beethoven 7 au programme. Léos Janasek avec Taras Bulba, Bruno Mantovani In and Out pour timbales et orchestre, c'est une commande de l'Orchestre National de Lyon en création mondiale, puis Ludwig von Beethoven, la symphonie numéro 7 en La majeur, opus 92.
Alors, le dimanche 8 février, la symphonie fantastique, toujours à l'Auditorium de Lyon, sous la direction là, de Serge Baudot. Donc, ce sera la symphonie fantastique, bien sûr, d'Hector Berlioz. Et puis, le jeudi 12 février, le samedi 14 février, toujours à l'Auditorium de Lyon, ce sera au violon Frank-Peter Zimmermann, sous la direction de Marek Janowski, et il y aura le concerto pour violon, le magnifique concerto pour violon de Jean Sibelius, et la symphonie numéro 9 de Franz Schubert.
Voilà. Eh bien, merci Marie, merci Laurent pour la technique. Et puis, on se retrouve bientôt.
Oui,
avec
à bientôt.
Au fil des notes sur Couleur FM 97.1. Au revoir.
Au revoir.